culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Auditrice, auditeur, bonjour ou bonsoir selon l'endroit du globe où tu te trouves. Si tu te demandes sur quelle émission de radio tu es tombé, tu es au Culte Espoir. Tu vas peut-être me dire, Brian, ça me fait une belle jambe de savoir ça. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est le Culte Espoir ? C'est un culte d'une heure où nous allons pouvoir écouter des témoignages authentiques sur la relation avec Dieu, être encouragé par des promesses bibliques, écouter de la musique qui recharge tes batteries pour la semaine sans oublier le partage de notre invité qui n'est d'autre que Isabelle Brouzé. Bonjour.
Bonjour.
Alors tu étais sur notre plateau la semaine dernière, mais pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ?
Bien sûr, donc Isabelle Brouzé, j'habite à Collonges-sur-Salève en France et je partage dès que je peux la parole de Dieu avec ceux qui sont autour de moi parce que c'est aussi simple que parler d'un restaurant que j'ai bien aimé quand je l'avais mangé.
Ah bah tant mieux, merci, c'est un vrai don ça.
Bah merci d'avoir accepté notre invitation, d'être revenu. Pourrais-tu nous dire quel est le thème de ton partage aujourd'hui ?
Alors, dans chacun de nous, il y a un cœur.
C'est une réalité.
Et j'ai reçu une phrase qui disait « Les choses terrestres ne peuvent pas remplir le vide d'un cœur qui a été créé pour le ciel. » Et c'est sur ce sujet-là qu'on va parler. Comment remplir ce vide qui est là quand Dieu n'est pas ?
Eh bien, je me réjouis que l'Esprit nous accompagne et nous guide tout au long de ce culte. Auditeur, auditrice, bonne écoute. Nous sommes dans la chronique « Dieu dans ma semaine », une chronique qui donne la voix à un Dieu bien concret dans nos vies. Amandine, la parole est à toi.
J'aimerais commencer cette chronique en disant à quel point je suis reconnaissante de pouvoir servir dans ces cultes espoirs. Parce que la préparation de ces cultes me donne l'occasion d'être en mouvement dans ma foi, d'explorer des thématiques, d'aller creuser et de prendre du temps avec Dieu. Et ça, c'est le gros avantage de rentrer dans un projet avec Dieu. Cela nous garde en mouvement. Et je lui rends gloire pour cela. Et peut-être que c'est un premier encouragement pour toi, auditeur, auditrice, si ce n'est pas encore ton cas, de permettre à Dieu de t'inspirer un projet avec lui pour le servir, qui te mettra en mouvement dans ton vécu avec lui. Alors ces dernières semaines, j'ai écouté et lu plusieurs témoignages de chrétiens, des témoignages qui m'ont été recommandés ou que j'ai découverts au cours de mes recherches pour les cultes de la radio notamment, qui m'ont interpellé, secoué. J'ai associé à l'écoute de ces témoignages des temps de lecture de la Bible pour aller confronter à ce que j'avais entendu, aller checker, est-ce que c'est juste histoire, comment ça marche, des temps de prière, la lecture de livres chrétiens pour m'aider à poursuivre mes réflexions. Et puis j'ai eu des échanges, des réflexions avec d'autres chrétiens, notamment ces deux amis chroniqueurs, des personnes de confiance qui ont une foi solide, avec qui je peux explorer, confronter, éprouver mes points de vue, ma compréhension pour grandir spirituellement sans me sentir jugé, parce que des fois je suis à côté de la plaque. Ça, c'est un deuxième encouragement pour toi, auditeur, auditrice. Cherche autour de toi si ce n'est pas encore le cas ou demande à Dieu d'envoyer dans ta vie des chrétiens humbles mais qui ont le feu pour Jésus, avec qui échanger et grandir. Je réfléchissais donc sur le thème du jour, ce vide d'un cœur qui a été créé pour le ciel, et j'ai découvert notamment le témoignage de Malik, disciple de Jésus au Moyen-Orient. Pardon, je te lis un tout petit extrait de ce qu'il partage. Tout chrétien devrait aller en prison pour sa foi en Jésus au moins une fois dans sa vie. Alors là, la réaction dans le studio, c'est « oui ». Une fois que vous avez connu la solitude d'une cellule de prison, vous n'êtes plus jamais le ou la même, j'imagine en effet, mais non d'ailleurs j'imagine pas je crois, mais en même temps, vous savez que Jésus peut remplir cette solitude à 100% et même plus encore, et vous éprouverez une joie immense. » On est quand même dans une dimension tout autre, quoi, là. J'ai entendu les témoignages d'une mannequin à succès à qui Dieu a parlé dans sa chambre d'hôtel en lui disant que c'est lui qui pouvait combler les besoins de son cœur. D'une femme devenue ermite suite à l'appel de Dieu de vivre dans la solitude dans laquelle il allait la combler. J'ai été touchée, interpellée, challengée par ces expériences de vie où Dieu s'est révélé puissamment pour montrer qu'il était celui dont nos cœurs ont besoin. Alors je me réjouis, Isabelle, amie chroniqueur, auditeur, auditrice, de poursuivre cette réflexion avec vous aujourd'hui.
Rassasira encore.
Dans cette chronique promise du jour, j'aimerais te partager un verset qui se trouve dans le livre des psaumes de David que tu trouveras dans l'Ancien Testament. Il dit ceci: « Trouve ta joie dans le Seigneur, il te donnera ce que ton cœur désire. » Alors, petit verset, mais qui en dit aussi beaucoup. « Trouve ta joie dans le Seigneur ». Pour me représenter cette phrase, j'imagine des supporters d'une équipe sportive, alors quel que soit le sport, foot, hand, etc. Tu peux t'apercevoir quelle joie ils ont d'être dans les gradins pour encourager leurs équipes. Ils crient, ils soutiennent, ils lèvent les mains. Tout leur corps est en mouvement parce que ça vient des tripes, parce que ça vient de l'intérieur. Et ça, ça continue match après match après match. Et je crois fermement que pour Dieu, c'est la même chose. Il désire qu'on trouve de la joie, du bonheur, du plaisir en lui parce que notre cœur, notre âme, notre corps tout entier désire quelque chose que lui seul peut combler, un désir qu'il aura mis au fond de toi. Auditeur, auditrice, que cette parole puisse résonner et t'accompagner dans ton cheminement de vie avec lui.
Depuis le début de notre émission, on a déjà pu commencer à cheminer ensemble à travers cette réflexion d'Amandine dans tes lectures. Et je trouve assez énorme ce témoignage qui raconte comment, du manque ou de l'absence, il y a des hommes et des femmes qui ont été comblés, transformés par la présence et la réalité de Dieu dans leur vie. Et puis, Brian, tu nous as fait cette invitation à ce que notre cœur sera comblé lorsque nous trouverons notre joie dans le Seigneur. Bon, alors vous savez quoi ? Ben, je vous propose une petite présentation du groupe Antidote, parce que qui est ce Dieu qui fait ça ? Le chant s'appelle « Tomber du ciel ».
Ça fait plus de 2000 ans, donc on n'y prête plus attention. Il faut vivre avec son époque, car elle a toujours raison. Mais notre histoire serait en haillons si on enlevait ce maillon. ONG, hôpitaux, écoles crient son nom sous leur baillon. Avant lui, le pardon n'avait pas de pied à terre. Ses paroles arrivèrent comme une oasis en plein désert. Il a posé les fondements des droits de l'homme. Sa vie est la définition de l'amour qui se donne. Il a dit à chaque jour suffit sa peine. Il a dit aime ton prochain comme toi-même. Et avant de voir la paille dans l'œil de ton voisin, commence par enlever la poutre dans le tien.
Qui est cet homme? D'où vient-il sinon tombé du ciel? Descendu pour nous s'y faire remonter. Entre l'humain et le divin, il est la passerelle. Venu restaurer l'harmonie brisée. Oh 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 oh.
On imaginait Dieu au-dessus des nuages, dans une tour d'ivoire. Voilà qui vient manger avec ce qu'on évite du regard. Il s'est fait homme, sans privilège ou immunité. Venu partager notre quotidien, notre humanité. Il a connu la routine de nos labeurs. Il a goûté à nos joies et nos crèves-cœurs. L'univers porte l'empreinte de ses mains. Pas étonnant qu'il guérisse des malades et multiplie des pains. On l'a traîné dehors, accusé à tort. On a cloué son corps, on a ri de sa mort. D'un mot, il aurait pu tous les anéantir. Mais il est resté suspendu pour nous éviter le pire.
Entre l'humain et
dégâts, de faux combats. Y'a eu depuis le début des chauds, des bas, en haut débit, des hauts, des bas. Mais en revenant à la source de ce qu'il a été, en lisant ceux qui ont vécu à ses côtés,
chacun bien sûr peut penser ce qu'il veut. Moi je crois qu'il est le sauveur, à la fois homme, à la fois Dieu. Je crois qu'il est le seul chemin qui conduit au seul être divin. Que nos fautes sont un poison dont il prend sur lui le venin. Et si les hommes veulent éteindre sa voix, au cœur de notre histoire reste plantée cette croix. Cette croix.
Ce tombeau ouvert, ce pardon offert, ce pont entre ciel et terre, ciel et terre, ciel et terre. Cet homme, d'où vient-il sinon tombé du ciel, descendu pour nous, t'y faire remonter pour l'éternité. Entre l'humain et le divin, il est la passerelle. Descendu pour nous, y faire remonter,
nous faire remonter.
Entre l'humain et le divin, il est la passerelle,
la seule passerelle.
Venu restaurer l'harmonie brisée.
Pour cette chronique Dieu agit, j'ai été à la rencontre de Sandra qui a accepté de nous partager un petit aperçu de ce que Dieu a fait dans sa vie. Je te laisse écouter.
Alors il y a un certain nombre d'années, vous embrassiez une autre carrière que maintenant. Qu'est-ce que vous faisiez ?
J'ai poursuivi pendant quelques années, à peu près 10 ans, une carrière de mannequin pour travailler dans la mode. Et puis j'ai parcouru différentes villes. J'étais passionnée, fervente, déterminée. Et puis ça, depuis mon adolescence. Et mes parents me disaient, tu pourras voyager et faire ce que tu veux une fois que tu auras fini ta maturité fédérale. Donc en Suisse, c'est la fin des études pour pouvoir aller à l'université par la suite. Donc j'ai fait ça. Et puis dès que j'ai eu mon diplôme en poche, on va dire, je suis partie au Japon pendant 2 mois. Donc, c'était vraiment une expérience. J'ai appris l'anglais, il n'y avait que des Américains autour de moi et des Japonais, bien sûr. Et puis, je courais vraiment après la reconnaissance, l'amour, l'attention. Je courais après le fait qu'on puisse me reconnaître, me sentir exister, aimer. Alors, c'est des besoins fondamentaux, on est d'accord. Mais c'est normalement les parents qui sont censés répondre à tous ces besoins-là.
Justement, vous êtes là-bas, vous embrassez cette carrière. Et puis, qu'est-ce qui vous semble à ce moment-là vous combler votre cœur ?
Alors, je cherche à être comblée, mais je le serai jamais, en fait. D'abord, on a des objectifs, partir à l'étranger, avoir un contrat, commencer à gagner sa vie, faire telle couverture de magazine, travailler avec tel client, enfin... On a toujours des objectifs pour arriver à un certain niveau. C'est comme...
En pensant qu'atteindre ces objectifs, c'est finalement être comblé.
Justement, on essaye d'avoir la première place du podium, on va dire, en pensant que c'est ça qui va nous combler. Mais une fois qu'on l'a, on est déjà dans la deuxième course. Mmh. On est déjà dans la suite. Donc en fait, c'est une course effrénée qui mène à rien. Donc moi, j'ai essayé de voyager, je me suis rendu compte en fait de l'envers du décor aussi, parce que tout est fait de paillettes. J'étais avec les photographes un peu les plus renommés, mais après on est passé à une autre sphère au niveau international. Puis là, on régate avec le monde entier. Donc on a toutes les plus belles, toutes les plus jeunes, toutes les plus grandes. En plus, moi, j'avais pas la taille qu'il fallait pour être mannequin, donc je devais toujours avoir des immenses talons, mais les grandes avaient les mêmes talons que moi, donc en fait, on est toujours séparés.
Et aux yeux du monde, alors, vous aviez atteint le succès, la réussite ?
Alors, non. Enfin, ça dépend. Pour une carrière suisse, oui, mais dès qu'on passe à l'international, le niveau augmente largement. Donc non, je me suis démenée, j'étais à Paris, à Milan, à New York, en Allemagne, enfin, je suis retournée au Japon plusieurs fois, en Corée du Sud, enfin, je courais, courais, courais. Et en fait, c'est comme si j'osais pas rentrer chez moi en Suisse tant que j'avais pas un gros trophée, comme si j'étais pas digne de retourner chez moi sans avoir réussi. C'est dans cette course effrénée où je me suis rendu compte que ça menait nulle part, en fait. J'ai fait une rencontre. J'avais déjà... C'est important de dire qu'en général, Dieu vient nous chercher plus jeunes que ce qu'on s'imagine. Donc moi, c'est à mes 7 ans, quand j'ai fait ma première communion, parce que j'étais catholique, dans une famille catholique, que j'ai senti la présence de Dieu. Et j'ai toujours aimé Jésus, et j'ai toujours senti son appel. Mais je résistais, parce que je voulais ni être nonne, ni partir en voyage en Afrique avec les serpents et tout ça. Donc c'était l'idée que je me faisais de l'appel de Dieu. Donc je résistais. Et je me rappelle une fois, dans mon cœur, je disais, Seigneur, pas maintenant. Laisse-moi juste être mannequin, puis faire ce que j'ai envie, puis peut-être après, je te servirai. C'était ça, le deal. J'étais toujours en deal avec Dieu.
Il a été bon, il a attendu, il est revenu vous voir.
Il a attendu, il est revenu dans ma chambre d'hôtel à Amsterdam. Il m'a dit, voilà, je reviens là, je crois que tu as fait un tour, tu as déjà fait un bon tour du sujet. Et puis là, c'était, j'ai senti un tel amour, une telle insistance, une telle proximité que je ne pouvais pas résister. C'était, je capitule, j'ai compris. J'ai compris qu'il n'y a rien d'autre qui pourrait combler mon cœur. J'ai compris que cette course effrénée, en fait, c'était aussi la recherche du Père. C'était le besoin de reconnaissance du Père. C'est le Père qui établit ses enfants dans l'identité. C'est son amour qui m'a attirée à lui. Et je lui ai plus résisté à ce moment-là. J'ai dit, OK, je te donne tout. Je veux t'obéir, même si je ne comprends rien. Même ce qui s'est passé... À ce moment-là, j'entendais le Père me dire... je pouvais reconnaître sa voix, hein, je savais qu'il existait, je l'aimais. On ne m'avait jamais enseigné que quand tu donnes ta vie à Jésus, il n'y a plus rien qui t'appartient. Et puis, il ne va pas faire de toi forcément une nonne qui va t'envoyer dans un pays dont tu as peur, même si je suis quand même partie en mission en Afrique au final. Mais je ne pouvais pas imaginer dans ce contexte catholique qu'on pouvait être marié, avoir une famille, puis le servir.
Vous avez continué à être mannequin après cette rencontre ?
Alors, après cette rencontre, je suis rentrée en Suisse. J'ai dit à Julien, avec qui j'habitais, on n'était pas chrétiens les deux. Je lui ai dit, il faut que j'aille à l'église. Je veux servir Dieu. Donc, il m'a suivi un peu dans les églises autour. C'était des églises catholiques. Puis, il m'a dit, où c'était pas très animé, on va dire, en tout cas celle que j'avais testée. Puis, il m'a dit, mais tu devrais aller dans l'église où mon père s'est remarié. Là, il y a plein de jeunes, je suis sûre que tu vas aimer. Et puis donc, c'est dans cette église, c'était une église évangélique. Au bout d'un moment, j'ai compris, on m'a offert une Bible, j'ai dévoré la Bible, ce que j'avais jamais fait en fait. Donc je découvrais la parole de Dieu, et j'étais passionnée, aussi passionnée que j'étais pour poursuivre mes trucs de mannequin. C'est Dieu qui m'avait fait passionner, mais pour lui, pas pour des trucs vains. Petit à petit, il m'a dit lâche, et puis j'avais plus d'intérêt, ni pour l'argent qu'on peut gagner, comme genre une campagne de pub, c'est 10 000 francs suisses en 2 jours. Donc, c'est énorme. C'est de l'argent très facile. Et là, je disais non, je dois aller voir ma cousine. Non. Enfin, ils ne comprenaient pas, en fait, toutes les agences. Donc, je les ai quittées petit à petit. Ils pensaient que j'avais pris 20 kilos, que c'est pour ça que je partais. Mais avant de partir et de quitter toutes mes agences, ce qui était drôle, c'est que dès le moment où j'ai dit c'est plus ça que je veux poursuivre, c'est Dieu, il m'a donné des opportunités que je rêvais avoir par mes propres forces, genre les couvertures de Cosmopolitan, travailler pour H&M, des choses que là, sans aller faire aucun casting, j'ai reçu ces jobs en un temps record. Et ça a duré peut-être 2-3 mois. Puis après, Dieu il m'a dit, maintenant, je veux que tu arrêtes tout. Et puis, j'ai tout arrêté. Mais c'est comme si j'ai... c'est comme s'il m'a dit, tu vois, moi, je suis capable de répondre aux désirs de ton cœur. Même si c'était des choses vaines, on va dire, il me les a quand même données, juste pour dire, il n'y a que moi qui pourra satisfaire tes désirs les plus secrets ou tes besoins les plus profonds.
Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire. Après toi, garde ton cœur de paix, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. toi. Mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi.
Alors Isabelle, la parole est à toi.
Alors, c'est intéressant parce que quand on entend des phrases comme ça, que les choses terrestres ne peuvent pas remplir le vide d'un cœur qui a été créé pour le ciel, ça me touche vraiment. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui essayent de rentrer dans notre cœur pour le remplir que tout le monde devait être comblé. Est rempli. Et on voit de plus en plus de vide et de plus en plus de solitude. Et chaque humain, dans toutes les générations et dans tous les continents, ressentent ce besoin de spiritualité, même s'ils sont des choses différentes. Des fois, c'est pas la même religion, mais c'est ce souhait d'atteindre l'éternité et de vivre au-delà de cette vie-ci. Et le fait de savoir que c'est Dieu. Parce que Ecclésiaste 3:11 dit « Il a mis dans nous, dans nos cœurs, la pensée d'éternité. Mmh. » C'est Dieu qui a mis cette pensée en nous. Donc, c'est lui qui peut remplir, puisque c'est lui qui l'a mis ce vide quand il n'est pas là. Et je me souviens qu'une fois, j'avais acheté un petit appareil électronique et quand j'ai déballé, il y avait dedans un tournevis tout petit. Et puis, c'est resté dans le paquet. J'ai utilisé et un jour, j'ai dû ouvrir cet appareil. Et je me suis souvenu, il y avait un tournevis dedans tout petit. Et je dis, bon, c'est pas grave, j'ouvrirai avec autre chose. Impossible. Parce que le tournevis correspondait exactement à cette petite vis qu'ouvrait ce petit clapet qui faisait que je puisse arranger ce petit appareil. Et comme je n'ai pas pu trouver, rien d'autre n'allait. Il était la vis, la tête et le tournevis étaient faits l'un pour l'autre. Et rien d'autre. J'ai essayé d'ouvrir, j'ai cassé les clapets, bien sûr. Et j'ai dit, mon Dieu, mais c'est comme ça que tu fais avec nous. Tu as mis quelque chose en nous qui peut être ouverte au rempli qu'avec toi. Et des fois, on essaye de le faire avec d'autres choses. Et les hommes, ils sont magiques. Ils veulent, avec sa magie, remplir quelque chose avec d'autres choses. Mais Dieu a créé en nous, dans nos corps, dans notre cerveau, ce vide qui est rempli par la forme divine et par rien d'autre. Et quand on est petit, on apprend à l'école maternelle à remplir, ils nous donnent une forme, un carré, il faut mettre le carré dans le carré, le rond dans le rond, le triangle, vous voyez
bien
ce que
sûr,
ça
tout
à fait. Et une fois, j'ai trouvé mon fils en train de marteler un rond dans le carré parce qu'il avait perdu le carré et il voulait que le carré soit rempli avec le rond. Et il est arrivé. Le rond est resté coincé dans le carré. Mais il y avait 4 coins qui étaient vides. Pourquoi ? Parce que la forme du carré n'est pas la même que le rond. Et les êtres humains font la même chose avec Dieu. Parce qu'ils ressentent un vide des fois, ils essayent de remplir avec autre chose, avec de l'argent, avec des loisirs, avec des maisons, avec des voitures, avec même des gens. Des fois, on essaye d'avoir beaucoup d'amis sur Internet pour remplir ce vide, mais ce n'est pas la même forme. Et l'éternité ne peut pas être assouvie par autre chose que ne soit pas la présence de Dieu en nous. Et j'ai trouvé joli parce que dans la Bible et dans les évangiles, il y a une histoire qui raconte cette soif qui doit être remplie que par Jésus. Et elle est présentée en plusieurs évangiles, en Matthieu 19, en Marc 10 et en Luc 18, où il raconte l'histoire d'un jeune homme. La Bible nous dit qu'il était riche. Et qu'il était très riche. Et les évangiles nous disent qu'il arrive, il veut parler avec Jésus, mais il arrive en courant. Parce que c'était urgent. Il savait que Jésus voyageait. Il restait pas souvent au même endroit. Donc, il dit, il passe chez moi. Il faut que je lui parle aujourd'hui. Et il va en courant. Et il a une question importante à poser à Jésus. Il dit, Jésus, malgré ma richesse, qu'est-ce que je dois faire pour avoir hérité la vie éternelle ? Il était riche, donc apparemment, il aurait pu acheter la vie éternelle. Mais il savait que la vie éternelle ne peut pas s'acheter avec de l'argent. Les richesses peuvent combler quelque chose, mais elles ne remplissent pas ce vide spirituel qu'on a. Et combien de personnes ont cette même question? Des fois, pas pendant la vie, parce que pendant la vie, elles courent, elles travaillent, tout ça. Mais à la fin de leur vie, beaucoup se trouvent « et maintenant ». Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et il y a un chanteur français, j'ose pas dire le nom, mais si vous me permettrez, si vous me permettez, peut-être que je peux le dire pour plus tard. Il raconte dans une de ses chansons qu'il est dans un cimetière parce qu'il doit enterrer un de ses amis. Et dans ce cimetière, il dit la phrase, il dit « Devant la tombe béante, j'ai prié Dieu pour qu'il existe ». Il ne le croyait pas avant. Mais devant la mort, il dit « pourvu qu'il y ait un Dieu, pourvu qu'il y ait une éternité, parce que sinon, c'est bien triste, c'est bien noir cette tombe. » Et c'est légitime de se demander « comment puis-je hériter la vie éternelle ? Comment puis-je avoir droit à quelque chose qui ne se finit pas ici ? Comment je peux remplir ce vide en croyant qu'il y a quelque chose d'autre ?» Et quand il pose cette question à Jésus, Jésus, la première réponse qu'il va donner, il dit, regarde, tourne-toi vers Dieu, vers les Écritures. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais les commandements de Dieu? Et le jeune dit, ben, oui, mais ça ne m'a pas rempli encore, donc il y a une erreur. De quoi tu parles, Jésus? C'est quoi ces commandements dont tu parles? Et Jésus va lui dire, ben, aimer Dieu, ne pas tuer quelqu'un, ne commettre pas d'adultère, honorer tes parents. Et il y a presque de la déception en ce jeune, parce qu'il dit « mais je fais tout ça, et ça continue vide là-dedans, il y a quelque chose d'autre ». Et Jésus va lui dire « oui, il te manque une seule chose ». Et je peux imaginer le jeune qui est venu en courant dire « waouh, yes, je suis sauvé ». Si c'est qu'une seule chose, bah, ça va être facile. Et Jésus, dans ses paroles, va lui dire « tu sais, tu connais tout ». Théoriquement. Tu sais tout en théorie. Maintenant, je vais t'inviter à que tu le mettes en pratique. Donc, ce que je te demande, c'est vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Attention, je fais une petite parenthèse parce qu'il y a peut-être des gens qui vont me dire mais elle est contre les riches. Pas du tout. Pas du tout. Les richesses ont une fonction. Et nous connaissons plein de personnages bibliques qui ont été riches. Mais la fonction des richesses, ou la fonction des maisons, ou des voitures, ou des amis, ou de la famille, n'est pas de combler le vide de Dieu, quand Dieu n'est pas en nous. C'est une autre fonction, c'est une autre chose. Et de cette façon, Jésus va dire à cet homme, « Regarde, tes richesses, c'est bien, mais elles ont une fonction. » Et la tienne, c'est de les partager avec quelqu'un d'autre. D'accord? Et de cette façon, tu vas obéir à la loi. Parce que, en partageant avec les pauvres, tu vas obéir à toutes les lois d'aimeras, tu aimeras ton prochain. Et quand je te dis après, quand ça sera, quand tu feras ça, tu me suis. Et là, tu vas obéir à la loi, tu aimeras ton Dieu sur toutes les choses. C'est paradoxal ce que dit Jésus, parce qu'il va dire pour remplir le vide que tu sens, il te manque d'abord que tu te vides de ce que tu as. Donc, et nous comprenons ça parce que Jésus va faire, c'est logique, ce que tu as ne te remplit pas, bah, il faut le vider pour remplir avec quelque chose d'autre. Essaye au moins. Et nous savons très bien, ceux qui ont fait des rénovations profondes dans les maisons, que la première chose à faire dans une maison quand on doit la rénover,
la vider.
C'est la vider. Mmh. Et puis tu rénoves. Et Jésus va proposer ça, c'est un défi. C'est d'abord, tu vides. Et après, je te remplis de quelque chose. Et tu vas voir que tu ne vas pas être déçu. Et être disciple de Jésus, parce que finalement Jésus est en train de le dire quand il dit « suis-moi, ben, tu viendras mon disciple ». Être disciple de Jésus, c'est vivre comme il a vécu, aimer comme il a aimé, et donc se remplir de ce que Jésus s'est rempli, c'est-à-dire de Dieu. Et il y a quelqu'un qui a dit, une chose qui a dit comme ça, « j'ai cherché Dieu et je ne l'ai pas trouvé. J'ai cherché mon prochain qui souffrait et nous nous sommes rencontrés tous les trois. Moi, le prochain ». Et Dieu qui était là. Des fois, trouver Dieu, c'est trouver les autres et nous donner aux autres et nous remplir de ce partage. Ce que Jésus proposait à ce jeune homme n'était pas qu'il marche vers la ruine. C'est il proposait pour qu'il signe un contrat en or. C'était une affaire en or, ce que Jésus proposait. Il disait, ce que tu es venu chercher, je te donne. Alors, vide-toi pour pouvoir te remplir de moi. Mais les versets suivants nous disent que l'homme est parti parce qu'il était trop riche et il ne voulait pas se libérer de ses biens. Il était puissant, mais il n'était pas libre. Ses biens l'avaient alourdi. Il possédait des biens, mais surtout les biens le possédaient. Il ne pouvait plus rien faire parce qu'il était attaché à ses biens. Ses richesses l'avaient vieilli, ridé, sclérosé, et il ne pouvait plus avancer vers ce voyage que s'appelle l'éternité. Il pensait être riche, mais non, parce que ses richesses l'empêchaient d'obtenir ce qui lui manquait. C'était l'éternité. Alors, rien ni personne ne pourra remplir ce vide en nous. Et j'invite chacun de nous, même si on se sent un peu comblé, un tout petit peu, parce qu'il y a des choses qui nous comblent, nos familles nous comblent. L'éternité, c'est avec Dieu. Nous pouvons le chercher dans la prière, des fois dans la solitude, des fois dans les témoignages, des fois dans la lecture. Dieu, quand on le cherche, il viendra, il videra tout ce qui n'est pas nécessaire. Et là, on va être répu. Mmh. Comme à la fin d'un repas, on nous dit, tu veux le dessert? Et on dit, non, j'en peux plus. Même le dessert ne m'allège pas. Ben, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. C'est nous remplir de telle façon que le reste, même l'important, soit secondaire et qu'il puisse remplir et nous donner cette vision d'éternité.
Bienvenue dans la chronique « Et toi, ça te parle ?» Une chronique qui permet d'éclaircir, de réagir, d'aller plus loin dans le message qui a été partagé. Et ce message, c'est Isabelle Brouzet qui nous l'a partagé. Elle évoque notamment le besoin de combler un vide que les choses matérielles et terrestres ne peuvent pas combler dans notre vie. Alors les filles, Marilyn, Amandine, comment ça vous parle ?
Moi, j'ai été interpellée par cette idée de lâcher des choses pour pouvoir recevoir. Mm. Qu'il y a des choses qu'on... Ouais, peut-être comme cet écureuil-là qui a la main dans le sac de cacahuètes, mais qui doit lâcher la cacahuète pour sortir la main, sinon il...
Ah, c'est mignon comme il voit le choix.
Mais ouais, des fois, ouais, c'est ça. Ouais. Je trouvais que c'était...
Moi, dans, quand t'as dit ça, ça m'a fait penser à cette idée de confiance. Moi, j'ai déjà eu dans ma vie où j'aurais pu pourvoir à certaines choses par moi-même. Et où j'ai l'impression que Dieu disait, non mais ça, en fait, débarrasse-toi. pour que tu puisses me faire confiance et que tu puisses voir que moi, je vais pourvoir. Et d'une manière bien plus merveilleuse, bien plus grande que ce que toi, t'aurais pu faire. Et c'est vrai que moi, ça me touche et ça me défie en même temps de me dire, en fait, c'est quand Dieu nous invite à le laisser combler ce vide, c'est aussi apprendre à lui faire confiance et à dépendre de lui, ce qui est un petit peu contre ce que naturellement nous faisons en tant qu'être humain. On nous dit bien dans les enseignements de la société, compte sur toi-même, tes ressources sont toi-même, non?
Oui. Tout à fait, et puis c'est vrai que quand tu nous as parlé de la pensée que Dieu avait mis en nous, cette pensée de l'éternité, j'ai pas pu m'empêcher, tu avais évoqué cet auteur-là de chants qui disait qu'il avait assisté à l'enterrement de son ami et que face à la mort, en fait, on a beau avoir des moyens infinis, on est face à la mort, c'est plus puissant que nous dans un sens. Et là, il se dit, ce serait bien que Dieu existe. Il cherche un sens à sa vie. Et pour les personnes, moi, je vois, pour les personnes souffrantes, c'est vrai qu'il y a toujours cette question-là. Ou alors, moi...
Et tu vois ça dans ton travail.
Dans mon travail, par exemple, pour les personnes en situation de handicap, c'est vrai qu'il y en a certains qui se demandent, à quoi bon, au final, à quoi bon? Et dans un autre sens, il y a les, entre guillemets, ceux qui ont une belle vie, qui sont riches. On parlait du jeune homme riche, mais là, actuellement, on peut voir des milliardaires qui essayent d'élargir encore plus notre vie. Et ils payent pour avoir une vie un petit peu élargie.
Tu veux dire quoi par élargie?
En fait, une vie d'éternité. Il y a des milliardaires qui cherchent à
devenir immortels,
par
leurs propres moyens.
Exactement. Mmh.
C'est très impressionnant parce que les statistiques disent que les pays où il y a le plus de suicides, c'est les pays les plus riches. Ouais. Ce qui veut bien dire que c'est pas moi qui dis. Moi, je pensais, OK, dans les pays où il y a la guerre, ils se suicident, ils n'ont pas le temps de se suicider. Bon, ils sont tués, donc... Mais dans les pays riches, où tout paraît facile, les gens continuent avec ce vide. Et le suicide, c'est une façon de dire, je ne trouve pas de solution.
Il n'y a pas de solution.
Donc, ça montre bien que c'est pas la richesse, même pas la paix politique, qui remplit ce vide. Mais tu avais dit, il faudrait être un jour au moins en prison, un jour. C'est vrai que quand tu pars en prison avec Dieu, il n'y a pas de prison. Dire... Tu n'es plus en prison, tu es en Dieu. Donc, tu peux comprendre que tu es enfermé par des murs, mais tu es monté beaucoup plus haut que les murs d'une prison. Parce que Dieu te soulève quelque part, te montre autre chose. Et donc, c'est la beauté. Ceux qui ont vécu ça ont découvert la beauté de voir au-delà de ce qui se passe ici. Et c'est Dieu qui montre cela.
On en parlait avec Marilyn pendant ce temps de préparation, en se disant, mais en fait, du coup, face à cette réalité, il y a beaucoup de gens qui cherchent aussi dans une forme de spiritualité Dieu, Jésus, mais en fait, ils cherchent ailleurs que Dieu et Jésus. C'est des spiritualités qui vont offrir autre chose pour une paix intérieure, pour un sens d'être rempli. Et même, en fait, dans ces chemins-là, on se rend compte que finalement, ça ne répond pas non plus. Parce que vraiment, celui qui a la bonne tête de tournevis, c'est vraiment Jésus-Christ.
Celui qui t'a créé.
Et c'est lui qui nous a créé. Et donc, du coup, ça t'appelle finalement à OK, t'es en quête. Mais en fait, la clé, la porte, Dieu, dans la parole, c'est dit le chemin, la vérité, la vie. C'est Jésus, quoi.
Et maintenant, c'est un appel individuel à tous les chrétiens, à tous ceux qui croient. C'est que les autres voient en nous qu'on est remplis. Nous, on est remplis, il nous manque peut-être des choses, mais c'est pas celles qui sont importantes. Nous sommes l'exemple. Les gens peuvent entendre à la radio quelque chose, mais s'ils connaissent quelqu'un qui vive cette spiritualité et qui sont repus de Dieu, ça va lui montrer que ça existe, que c'est vrai, que ça vaut la peine de se rendre à Dieu. C'est un défi maintenant, Anne.
Oui, tout à fait.
Merci pour ces échanges. Et toi, à la maison, là où tu te trouves, comment ça te parle?
Alors, cher auditeur, si tu nous rejoins maintenant, tu te trouves au Culte Espoir et dans notre chronique Dieu dans les arts, je te propose de partir à la découverte d'un artiste et d'un de ses chants.
Ah, j'aime bien.
Voilà. Il s'appelle Super. Kate Green. Cela vous dit peut-être quelque chose?
Je ne connaissais pas du tout. Ah, et pourtant, on a des chants en français de lui qu'on chante dans nos églises. Né en 1953 à Brooklyn, dans une famille dans laquelle la foi était un mélange des enseignements de Jésus et de métaphysique, il commence la musique à 3 ans avec son ukulélé, puis avec le piano à 7 ans, et il est engagé à 11 ans par un label de musique anglais pour enregistrer ses propres titres.
C'est voilà. Un bon musicien.
Un bon musicien. Mais quelque part dans son cœur, il y avait quelque chose. Dès ses 15 ans, il part en quête du bonheur parce que ce qu'on lui a enseigné ne faisait pas franchement sens pour lui. Et il explore les religions orientales, la drogue, la méditation, le yoga, tout ce qui était en vogue à l'époque sur la côte ouest. Il était convaincu que le vrai bonheur, une fois trouvé, ne serait pas passager. Il constate alors que toutes ces religions pointent Jésus en disant qu'il est un des chemins vers le bonheur. Mais en lisant sa Bible, il remarque que Jésus dit de lui-même qu'il est le seul chemin qui mène au Père. Il est la porte.
Voilà.
Et voilà, à 19 ans, en 1972, c'est le déclic. Il a trouvé ce bonheur durable en Jésus et en Dieu. Il le reconnaît comme son sauveur et Dieu. C'était pas forcément évident dans sa culture, là où il a été éduqué. Il abandonne la drogue et s'investit d'un cœur sans compromis pour lui. Après avoir joué plusieurs années avec des labels chrétiens, il refuse ensuite de facturer sa musique, concerts et albums. Sa prière était que des milliers de jeunes découvrent cette relation si particulière avec Dieu et s'engagent pour la vivre et la partager. Ses concerts étaient particuliers, mélange de musique, de partage, d'interpellation pour encourager à se lever, à suivre Jésus plus complètement. Alors, il enregistre en 10 ans 5 albums, dont 3 hors label. En 10 ans, parce qu'il décède tragiquement à 28 ans d'un crash d'avion avec 2 de ses enfants. J'ai lu une remarque anonyme très belle sur lui. Il n'était pas juste un chanteur, mais un psalmiste qui touchait le cœur de Dieu et le partageait avec nous. Alors, le chant que je vous partage aujourd'hui s'appelle en anglais « Oh Lord, you're beautiful ». Seigneur, tu es beau. Et il raconte lui-même l'histoire de ce chant depuis son piano lors d'un événement en 1980. Nous avons maintenant la chance d'en avoir même des versions françaises. Voici son récit. Ce lundi soir, autour de minuit, j'ai écrit une lettre à Dieu. Ne sachant pas où la poster, je l'ai mise dans ma Bible. Je lui ai dit « Seigneur, vas-tu faire quelque chose au sujet de mon cœur ? Tu sais, cela fait longtemps que je t'ai rencontré. Et je sens comme la peau de mon cœur qui se durcit. Ça arrive avec le temps, mais je veux avoir une peau de bébé sur mon cœur. Elle commence à être ridée, fripée, pas à cause de ce que je fais, mais de tout ce que je ne fais pas. Et je suis restée jusqu'à 2h du matin en écrivant ce chant. » Ce chant, eh bien, c'est la prière d'un cœur qui contemple Dieu, qui se sait aimé, et pourtant aspire à plus de cohérence, à un cœur qui n'est pas partagé, encore moins partagé. Et à travers les paroles de son chant, on découvre cette relation simple et profonde qu'il a avec son Dieu et qui le remplit, duquel il ne se lasse pas et dont il veut plus encore. Il dit par exemple « Ton amour est tout ce que je recherche, car quand tes yeux sont sur ton enfant, ton amour me submerge. » Ou alors « Ma foi est petite, j'ai besoin que tu me touches, que tu rallumes le feu de cet amour qui brûlait de tous ses feux en moi. » Et puis cette aspiration « Je veux prendre ta parole et la répandre autour de moi, mais d'abord, permets-moi de la vivre et que toute la gloire te revienne. » Alors écoutons Kate Green dans la version originale « Oh Lord, you're beautiful ».
Your face is all I seek. For when your eyes are on this child, your love abounds to me. Oh Lord, my body. But you keep reminding me of many holy, tireless men. for thee. I wanna take your word and shine it all around, but first help me just to live it, Lord. And if I'm doing well, help me to never make a sound except to give all the glory to you. Oh Lord, my faith is small, and I need a touch from you. Your book of books lies undisturbed, and the prayers from me too few. Oh Lord, please light the fire that once burned bright and clear. Replace the lamp of my first love that's fueled with holy fear. I wanna take your word and shine it all around, but first help me just live it, Lord. And if I'm doing good, please help me to never make a sound except to give all the glory to you. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see. For when your eyes are on this child, your faith abounds to me, to me.
Eh bien, ce chant a préparé nos cœurs pour maintenant vivre un temps de prière avec Dieu. Isabelle, peux-tu nous y conduire ?
Bien sûr. Seigneur, nous voulons te remercier parce que ce vide d'éternité, ce besoin d'éternité, tu l'as mis dans nos cœurs. Et en plus, tu nous as envoyé un cadeau pour remplir ce vide, qui est Jésus. Nous te remercions pour cela. Nous voulons faire de toi le premier, le dernier, le milieu, le tout de notre vie. Tu puisses remplir chaque coin. Et si tu dois vider, si tu dois faire le nettoyage, le ménage dans ces cœurs qui des fois sont vieux, sont ridés, sont durs, fais-le. Entre, nettoie, change, mets un cœur de chair et habite entièrement en chacun de nous. C'est ce que nous te demandons, en pensant à chaque personne qui écoute ce message, que tu puisses attendrir chaque cœur et remplir chacun d'eux. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Pas question de nous quitter sans l'action du jour, Amandine.
Yes, mon action commence par des questions que tu peux te poser. De quoi remplis-tu ta vie ? Qu'est-ce qui te donne l'impression d'être rempli, d'être épanoui ? Que ta vie a un sens, que tes objectifs, tes désirs sont atteints, réalisés ? Sais-tu ce qui te remplit vraiment ? As-tu déjà identifié ce vide dont Isabelle nous a parlé? T'es-tu déjà demandé quelle place et quel impact Dieu pouvait avoir dans ta vie? Y a-t-il un décalage entre ce qui te remplit vraiment, et selon nous c'est Dieu hein, qui remplit vraiment, et ce avec quoi tu remplis ta vie? Si aujourd'hui, maintenant, tu souhaites laisser Dieu remplir ce vide que seul lui peut combler, que ce soit pour la première fois de ta vie ou pour renouveler ton invitation à Dieu, je t'invite à dire, tu peux même répéter après moi, « Seigneur, je comprends que seul toi peux remplir ce vide en moi. Je t'invite dans mon cœur, dans ma vie, viens prendre ta place. Amen. » Et je demande à Dieu d'éclairer ton intelligence, de t'accompagner toute cette semaine, afin qu'il te montre comment le fait de le laisser remplir ce vide en toi se répercute dans ton quotidien, qu'il t'aide à lâcher ce qui veut le remplacer et qui ne te comble pas, voire même qui t'éloigne de lui, qu'il t'aide à faire le ménage dans ta vie, on n'avait pas parlé de ça avant, pour lui laisser la place qui lui revient. Et pour terminer cette proposition d'action, Marilyn et Briand, vous avez une suggestion complémentaire.
Oui, en préparant ce culte, j'ai eu envie de relire le psaume 119 dans l'Ancien Testament, qui parle de l'obéissance et de la relation intime que tu peux avoir avec Dieu, qui résulte en fait d'une vie de cohérence et de crainte de Dieu, plutôt que de la crainte des hommes.
Et ça m'a rappelé une action qu'un pasteur nous avait proposé, invité à faire un défi quand j'étais ado, prendre ce psaume 119 qui est assez long et comme il est partagé en parties de 8 versets, et bien de lire une partie de 8 versets chaque jour.
Voilà, que de propositions d'action, n'est-ce pas? Merci les amis. Je te bénis, chers auditeurs et auditrices, et je remercie Dieu de ce qu'il fait et ce qu'il va faire dans ta vie.
Nous arrivons à la fin de notre culte. Merci Amandine et Marilyn pour vos chroniques.
Merci Briand.
Merci Isabelle d'être revenue parmi nous. Merci pour ces deux cultes, toute ta préparation et ton cœur à servir. Tu reviens quand tu veux, évidemment. Tu es ici chez toi. Sois pleinement béni. Merci à toi, auditrice, auditeur, d'être resté avec nous pendant cette petite heure. N'hésite pas, comme d'habitude, à partager autour de toi ce culte s'il t'a touché, interpellé, s'il t'a fait du bien. Je te souhaite une belle semaine sous le regard de notre Dieu et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.